Les habitants de Marseille, c'est tous des Marseillais, hein ? Et oui, mais tu as les Marseillais de l'Estac, les Marseillais d'Andoume, les Marseillais de la Joliette, ainsi de suite, hein ? Tu me suis ?
C'est quoi ça ?
Bon, tu vas comprendre. Les Marseillais de l'Estac, par exemple, ça serait les musulmans, ceux d'Andoume, les chrétiens, ceux de la Joliette, les juifs, mais c'est tous des Marseillais.
Ah ! Ils vont se multiplier !
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit, t'as pas le d'or.
Una, all, tout, vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Una, all, tout, vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire ?
De l'expression latine, il n'a gardé que la fin, Gloria Mundi, la gloire du monde, alors que la formule entière, Sic transit Gloria Mundi, disait « Ainsi passe la gloire du monde ». En gros, se garder de tout orgueil, vanité. Lui a créé une planète à lui tout seul, la sienne, et celle de sa tribu. Alors bonjour à toute cette planète et à tous les autres, et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
C'est son 21e film en 40 ans avec presque les mêmes. Un exemple unique dans le cinéma français, ailleurs aussi peut-être. Bonjour Robert Guédiguian.
Bonjour.
Le monde tel qu'il est ou tel qu'il pourrait être, deux options, comédie, tragédie, en l'occurrence la deuxième pour ce film, Gloria Mundi, une famille, les anciens, les valeurs et les nouveaux, les plus jeunes, qui veulent posséder ce que les autres possèdent. Ces nouveaux, ce sont deux jeunes acteurs. Bonjour Lolan et Marc.
Bonjour.
C'est votre quatrième collaboration avec Robert Guédiguian. Vous formez avec votre voisin ce matin ce jeune couple arriviste. Bonjour Grégoire Le Prince Ringuet.
Bonjour.
Vous aussi membre du groupe depuis quatre films. Enfin, le monteur historique de cette filmographie, bienvenue Bernard Sazia.
Bonjour.
Depuis 1985, aux côtés de Guédiguian au montage, sa vie, son œuvre, sa méthode, à l'occasion de la sortie de Gloria Mundi mercredi prochain et de l'intégrale Guédiguian en DVD. Enfin, la mort d'un grand amoureux du cinéma, Jean Douchet, est parti cette semaine. Nous lui dédions cette émission et maintenant, on va dire que c'est parti.
Nous, fils d'ouvrier.
Je suis pas fils d'ouvrier. Mon père est pêcheur, en plus je suis une fille.
Elle a raison.
Mais t'es un fils de pauvre, mais pas fille.
Pourquoi pas fille?
Ça allonge trop.
Bon, je vous lis ce que ça donne. Nous, fils de pauvre, jurons de nous battre jusqu'à la mort. Et quoi qu'il arrive, pour que vienne un jour où tout le monde sera riche, sans être capitaliste, si l'un de nous trahissait ce serment, les autres ne lui parleraient plus jamais. Ça vous va ?
La vérité chez Guédiguian sort aussi de la bouche des enfants, fils de pauvres rêvant d'un monde meilleur. En 2019, il n'est toujours pas arrivé, on dira même au contraire. Il crée même une faille énorme au sein d'une même famille. Le capitalisme a bousillé les relations fraternelles. C'était un peu ça l'idée de départ de Gloria Mundi, Robert Guédiguian.
Oui, enfin, l'idée vient d'une colère un peu forte, pas un peu, d'une colère forte en fait contre le moment de régression dans lequel on vit, parce que j'ai ce sentiment-là, je pense qu'on vit un moment de régression, j'ai l'impression que si on continue comme ça, on va se retrouver au 19e siècle, quoi, je veux dire, on peut travailler le dimanche, on peut travailler la nuit, on peut travailler de manière précaire, on n'aura plus de congé, on en prend beaucoup trop, chacun le sait, je veux dire, la retraite, ça sera beaucoup plus tard, mais bon, on va entendre ça, c'est un cauchemar auquel on assiste, et le paradoxe, la contradiction, et ce qui m'énerve encore plus, c'est que, au fond, ce discours est de plus en plus admis comme si c'était naturel, comme si les gens qui nous racontaient ça tenaient ce discours pour le bien de la nation, du monde, de la France, de l'Europe, comme si les pauvres ne faisaient pas tous ces sacrifices-là, évidemment le monde s'effondrerait. Et je n'entends jamais parler, effectivement, dans tous les programmes, de changement massif de la fiscalité, par exemple, de travailler sur l'optimisation fiscale, et on parlera pendant des heures de ça, non, on parle de des fraudeurs du chômage, par exemple, ou des fraudeurs de la sécurité sociale. On sait tous que c'est des sommes dérisoires, d'ailleurs, par rapport à l'optimisation fiscale, mais il n'y a pas de grand programme sur l'optimisation fiscale. Donc c'est un peu tout ça, et avec cette idée vraiment d'une espèce, j'ai le sentiment quand même d'une défaite idéologique, c'est-à-dire j'ai le sentiment que les pauvres gens, comme je disais avec Victor Hugo, dans les neiges du Kilimanjaro, consentent en fait un peu à ce discours, c'est-à-dire tiennent ce discours et le soutiennent, c'est-à-dire ils sont aujourd'hui une résignation, ils vivent ça comme étant naturel, quoi.
Je rappelle qu'on est dans des émissions de cinéma. Donc Gloria Mundi est un film.
Justement.
Donc je rappelle l'histoire.
Je me présente aux prochaines élections.
C'est pas mal parti. Jolie bande annonce. Daniel Gérard Mélan sort de prison. Son ex-femme Ascaride lui a appris qu'il était récemment devenu grand-père. Accueilli par elle et son nouveau compagnon Daroussin, Daniel retrouve sa fille Anaïs de Moustier qui le bat froid. Il fait la connaissance de cette famille où chacun tente de tenir debout. Les temps sont difficiles, sauf peut-être pour ce jeune couple formé par vous deux, Bruno, Grégoire Leprince Ringuet et Aurore, Lola Némarque, qui s'en sort en tenant un magasin, on va dire un cache-converteur.
Bonjour.
Disons.
C'est tout?
Si ça vous plaît pas, vous le reprenez. Vous trouverez peut-être mieux ailleurs. Ça m'étonnerait.
Putain, il est tout nouveau, ce radio réveil. Je l'ai jamais utilisé.
Vous vendez ou pas? Il y a des gens qui attendent derrière vous, on n'a pas que ça à faire. Suivant.
Ça va, tu peux rester aimable, non?
J'ai pas le temps.
Quitte à m'enculer, tu peux le faire avec le sourire.
Ouais, deviens pas grossier, je vais m'énerver.
Bah vas-y, énerve-toi pour voir.
Ça va ou quoi? Comment tu me parles?
Espèce de connard.
Mais oh, comment tu me parles?
Regarde-toi.
Mais ça va ou quoi?
Ah! Ok, tu m'as bien entendu là? Arrête, tu m'écoutes bien là?
Arrête, s'il te plaît.
Plus jamais tu remets les pieds ici, t'as compris?
Ok.
T'as compris?
Ok.
Allez, lève-toi. Lève-toi. Tu te lèves, tu dégages.
Espèce d'enculé!
C'est ça. Connard. Approchez, n'ayez pas peur. C'est terminé, tout va bien. Bonjour madame.
Bonjour.
Ça va ma chérie?
Bah ouais.
T'as combien en caisse, là?
700.
Donne-moi 500, il faut que j'entende à l'entrepôt.
Tu fais chier, merde. C'est toujours dans le même sens, hein. Plus je bosse, moins je vois la couleur d'argent.
C'est comme ça. Il faut équilibrer les comptes, hein. Ce que tu vends ici, c'est ce que je répare là-bas, je te signale.
Ah ouais? C'est ce que j'achète ici que tu répares là-bas. Un jour, je te ferai un vrai cours d'économie, hein. Je sais pas encore tout appris, mon pauvre amour.
Gloria Mundi, je disais, les sexagénaires dans le sacrifice et la résignation, et la jeune garde, vous deux comédiens, donc prêts aux personnages, prêt à tout pour survivre à tout prix, Grégoire Leprince Ringuet. Vous qui êtes habitué à des rôles plus calmes, plus romantiques. Non, c'est vrai,
c'est vrai.
C'est un pur contre-emploi de vous voir là-dedans. Comment Guédiguian vous a briefé là-dessus? Parce que c'est la charge est lourde, hein, sur ce jeune couple.
Oui, effectivement, c'est vraiment les personnages négatifs de l'histoire. Moi, je le dis souvent, mais je remercie toujours chaleureusement Guédiguian de me donner des rôles qu'on appelle à contre-emploi, mais c'est-à-dire que c'est aussi un grand metteur en scène, et donc il croit en la fiction, et il croit en la capacité des acteurs d'incarner des choses qui dégageraient pas forcément au premier regard, au premier coup d'œil. C'est vrai que moi, j'ai souvent interprété des jeunes naïfs, des amoureux transis ou éconduits, etc. Et Robert, c'est le seul qui me donne des rôles différents, des rôles de méchants, par exemple. Mmh. Et là, c'est le cas dans ce film. Et bah, comme d'habitude, il nous a fait confiance, une grande confiance, et on a travaillé bien, suffisamment, pour que le jour du tournage, ça se passe bien.
Lola Némarque, il y a même une liberté amoureuse qui prend la forme dans ce film d'une pornographie domestique, on peut le dire.
Oui, on peut dire ça comme ça. Après, je pense qu'ils sont très satisfaits de cette pornographie domestique. C'est un couple heureux malgré tout. Alors, c'est un couple qui a décidé de survivre, non pas en s'entraidant, mais en piétinant tout ce qui est sur leur passage. Et c'est ça le drame. Après, pour autant, c'est pas des gens qui ont qui pensent ça, c'est pas des gens qui ont une pensée idéologique derrière ça, c'est
non,
pas des gens...
Ils n'ont plus aucune idéologie.
Ils n'ont plus aucune idéologie, ouais. C'est la fin de toute idéologie, ouais. Ils sont que dans l'instinct, dans la survie, et leur survie, bah, c'est de bousiller tout ce qui est sur leur passage.
C'est ça qui est récent dans vos récents films, Robert Guédiguian, c'est que le fait que les jeunes deviennent antipathiques. De plus en plus, de film en film.
J'ai jamais aimé les jeunes.
Non, c'est pas vrai.
Du coup,
vous aviez en permanence des héros plutôt jeunes et des vieux étaient bons. Mais c'est ça la nouveauté. Enfin, en tous les cas, ce qui apparaît de plus en plus, c'est ce pessimisme sur une partie de la jeunesse. Non, pas de tautologie, mais évidemment.
Les hommes sont des produits de l'époque dans laquelle ils vivent, dans laquelle ils grandissent, bien entendu. Hein, je veux dire, donc c'est pas un jugement de valeur absolu. Je veux dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Les jeunes gens aujourd'hui n'ont aucune proposition de projection, de visée plus large, de effectivement d'idéologie. Donc, bien sûr, ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent, c'est-à-dire de manière égoïste. Voilà. Donc, c'est tout, c'est un simple constat qui n'enlève rien, qui n'est pas un jugement de valeur. Donc, il y a un jugement sur la société qui produit de tels jeunes.
Bernard Sassia, est-ce qu'il faut être de gauche pour monter avec des dictions?
Oui, mais pas forcément, en fait.
Ah ouais?
J'exagère un peu.
Dans les contre-propositions.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que quand on est en montage, on parle pas forcément de gauche, de droite. On parle pas forcément politique. En fait, oui. On parle des films que l'on est en train de monter. Et c'est ce regard croisé, au contraire, qui compte. Voilà. Donc, dans une salle de montage, avec Robert, on n'est pas forcément toujours en train de parler politique. Voilà.
Robert a l'autorité placide, ce qui ne veut pas dire tranquille. Métaphore. La voiture, c'est la salle de montage. Il est assis à côté de moi, il regarde mon tout premier montage. Silence. Moi. Qu'en penses-tu? Robert. Moi. Ça va? Robert. Moi. Ça va? Robert. Et si le début, on le mettait à la fin?
Alors c'est ça le montage avec Robert Guédidian?
Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. Il faut avoir des oreilles et des yeux derrière la tête pour savoir ce qu'il pense. Parce que moi, je pense que Robert dirige un monteur comme je crois qu'il dirige ses acteurs. Il n'est pas à leur dire exactement ce qu'il faut faire. Il n'est pas à leur dire, là, il me faut couper 3 images, 6 images, en rajouter quelques autres.
Non. Ce doc s'appelle Robert sans Robert. Il est réalisé par vous et...
Et Clémentine Egalnik.
Il fait partie juste du coffret de l'intégrale.
Oui.
DVD. C'est un des deux bonus documentaires. Il y a aussi des belles préfaces par certains de nos confrères.
Merci d'avoir amené à cette transition avec les deux acteurs. Justement, comment il dirige Guédidian? Est-ce qu'il est très...
Il est autor... pas. Il dirige pas.
Il dirige pas.
Non, mais si vous voulez, c'est une direction... tout est un peu cohérent parce que... Il y a quand même un idéal sur les plateaux de Robert qui fait que tout le monde est un peu son propre chef. C'est-à-dire qu'on est un peu responsabilisé. Lui, il est là pour que ça tienne. Il dirige la dramaturgie, là où l'histoire doit aller, les informations qui passent. Et chacun est responsable un peu de son personnage. Moi, j'ai toujours été un peu déstabilisé ou mécontent face à des comédiens qui se laissaient complètement diriger et qui attendaient qu'on les dirige intégralement. Un comédien doit être une force de proposition. Il doit arriver avec un projet, un personnage et tout. Le personnage, il est écrit, on s'est mis d'accord, on a discuté avant. Sur le plateau, c'est à l'acteur de faire quelque chose. Le réalisateur est là pour en garde-fou, pour essayer de voir si ça convient bien à l'histoire. Et souvent, on fait des propositions. Robert dit oui ou non. D'ailleurs, souvent non. Mais c'est ça, le chef, c'est celui qui dit non finalement.
Et il sait faire des choix. Voilà,
c'est il sait ça, faire des choix. Le chef, c'est celui qui fait des choix. Mais en tout cas, on est
le
force,
choix de Robert, quoi. C'est d'avoir décidé de confier ces rôles-là, des contre-emplois vraiment à Grégoire et à moi, par exemple, de nous avoir choisi, nous, pour ces rôles-là, avec ces mots-là, de nous avoir mis en couple et de ne pas avoir inversé, par exemple, avec Anaïs.
Oui, parce que vous avez vos antithèses dans le film. Voilà. Vous avez, vous, c'est Anaïs de Moustier, votre antithèse. Et vous, c'est Robinson Stévenin.
Exactement.
Exactement.
Vous vous rappelez quand vous êtes entré dans cette, une tribu, un clan, on peut dire ce qu'on veut, hein. Vous aviez peur,
on était fiers.
Moi, j'étais fière. Je pense que c'est vraiment ça. Moi, j'ai rencontré Ariane d'abord et c'est par elle que je suis venue à travailler avec Robert et à intégrer la tribu. On l'a intégré en même temps, d'ailleurs, sur le même film.
L'armée du crime, ouais.
Et du coup, oui, c'est vraiment de la fierté, c'est-à-dire de sentir faire partie d'une famille dont on respecte la forme, le fond, avec laquelle on se sent en cohérence totale.
Les ancêtres, pour respecter les ancêtres, bien sûr.
Les ancêtres, je ne sais pas si...
C'est une vraie culture, avec un passé, un présent, un avenir, tout quoi.
Robert Guédidian, c'est vrai que votre mère vous écrivait des poèmes pour vos anniversaires petits?
Oui, tout le temps. Tout le temps, c'est peut-être que c'est de là que vient ma... Mon goût des haïkus.
Eh ben c'est vrai. Elle vous écrivait des poèmes. Incroyable.
Oui, pour mes anniversaires, surtout quand j'étais je suis parti à Paris et qu'elle était à Marseille, donc elle m'a envoyé des petits poèmes. Oui,
vous les avez conservés.
Versifiés d'ailleurs, oui, j'en ai quelques-uns. Ouais.
Ouais. Et ben voilà, donc ce qui explique effectivement la passion de Robert Mélan, de son personnage dans le film, qui en a écrit beaucoup en prison où il est resté quelques années. Il revient, il retrouve son ex-compagne. Un Ascari d'extrait.
Viens chez nous. Tu vas pas rester ici.
Je suis bien. Je suis pas dépaysé, c'est comme la chambre de ma prison.
Mon cœur est violet comme l'iris, noir comme le charbon. Toute la nuit, assis sur ma paillasse, à me souvenir de toi. Pardon.
Tu peux lire, j'ai rien à cacher.
C'est quoi ?
Des haïkus.
Ça sert à quoi ?
Aller chercher les beaux moments et les fixer pour l'éternité.
Alors, Robert Guédiguian, ce rôle que vous offrez à Mélan, c'est un des plus beaux rôles que vous ayez jamais offert à un acteur. Enfin, c'est selon moi. Il le fait magnifiquement, il est très philosophe, il est très sage, il est très pur. Mais d'ailleurs, c'est un homme très pur, hein, parce qu'il a conservé son métier d'infirmier dans un hôpital en même temps qu'il a fait vos films, en gros, Mélan. C'est un exemple, c'est un homme exemplaire pour vous.
Oui, absolument, oui. C'est un homme bon. C'est un homme juste et qui est dans le seul qui travaille ça, qui veut être comme ça. C'est un homme qui tient à avoir sa conscience pour lui en permanence. C'est quelqu'un de très moral en fait. Et là, le c'est vrai que il regarde les choses toujours avec compassion en fait. Ça vient d'ailleurs peut-être lui dit-il de son métier d'infirmier aussi, c'est-à-dire qu'il aime les gens quoi, voilà. Il aime le monde, il aime l'humanité, il a quelque chose de et là il regarde en sortant de prison tous ces gens-là, toute cette famille recomposée dans cet état quand même un peu de déliquescence. Et quand même, il essaie de les aider et il les regarde avec amour.
Il fait du cinéma avec vous, mais sinon il n'en ferait pas.
Ah, il n'en aurait pas fait s'il ne m'avait pas rencontré.
Oui.
Après, c'est vrai qu'il a eu des occasions, oui. On lui a proposé des choses. Là, il est à la retraite de fait aujourd'hui, donc il a un petit peu plus de temps libre. Du coup, il joue un petit peu par-ci par-là, il fait des trucs comme acteur, mais il n'a jamais été acteur. Professionnel, il n'a jamais quitté son métier d'infirmier pour devenir acteur.
En même temps, c'est un personnage radicalement pessimiste quand même, parce qu'on arrivait à un personnage de Tollard qui écrit des formes aussi courtes comme ça, c'est pessimiste fondamentalement quand même.
Bah, il est en prison pour quasiment rien. On comprend que c'était une espèce de geste malencontreux, si on peut dire en ce moment-là. Il a quand même tué quelqu'un. Mais il a donc passé sa vie à essayer de se remémorer. Des choses fulgurantes et belles, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il pouvait garder de l'amour de la vie en prison, ça tout seul? C'était ce qu'il pouvait, avec quelques mots, raconter. Ouais. Voilà. Douce forme de haïku, très courte, très brève, très ciselée. Et qui, en plus, bon, offrait, ceci dit, parlons aussi un peu de cinéma. C'est vrai que l'haïku me permettait quand même de filmer assez vite. La lecture d'un haïku, ben, s'il avait écrit des romans de 800 pages, on aurait été plus embêté au montage. Ça aurait été plus embêté, voilà.
Il fait partie donc de cette famille qui a maintenant trois générations, Robert, il faut le dire, hein. Jacques Boudet, Pascal Roberts, Ascaride Mélan Daroussin, de Moustier, des marques, je du vent de famille, hein, le prince Ringuet et Stévenin. Et un membre est parti en octobre, c'est Pascal Roberts.
Oui.
On n'a pas beaucoup parlé, hein. Elle est partie le 26 octobre. On voulait lui rendre hommage. Elle était dans Marius et Jeannette. On a choisi cet extrait très drôle et très politique.
Merci.
Tout ça, c'est politique. Tout est politique.
Oh, Caroline, tu veux pas remettre le couvert?
Mais qu'est-ce que tu crois? Que la bière que tu vas boire au café, c'est pas politique? Chaque fois que tu bois de la Henken, par exemple, qu'est-ce que tu crois que tu fais à part prendre un peu de bide? Tu donnes un peu plus de force de pouvoir à Henken. Résultat, Henken la hollandaise va racheter Fischer la française. Résultat, Henken va fermer des sites de production en France, question de rentabilité. Résultat, un peu plus de chômeurs chez nous. Tu vois? Si t'avais bu de la Fischer à la place de la Henken, t'inversais le processus.
Je me colle à Cronenbourg, moi.
C'était une sacrée comédienne, hein.
Oui, elle était formidable.
Elle était pas marseillaise?
Non. Mais il y a de bons comédiens, une norme Marseille.
Ça existe. Alors vous avez filmé un nouveau Marseille, hein, dans Gloria Mundi.
Un Marseille que vous ne l'aviez pas filmé jusqu'à présent.
Oui, voilà. En fait, mais je pouvais pas le filmer avant, j'allais dire, ce Marseille-là, parce qu'il n'existait pas. C'est-à-dire, c'est le dernier né, c'est le quartier dernier né de Marseille, en fait. Ce qui s'appelle de nom horrible, ça s'appelle Euro-Méditerranée.
Oui.
Comme si c'était une nom de quartier. Enfin, plus prosaïque, on dirait un dossier sur la commission de Bruxelles. C'est ridicule, Euro-Méditerranée.
Mais c'est la Joliette, quand même.
Le quartier d'avant s'appelait la Joliette.
Il n'y a plus. joli.
À quelques mètres, on a la Belle de Mai. Ouais. De l'autre côté, il y a Vauban, il y a l'Estac. En fait, ça, c'est des noms de quartiers qui contiennent un petit peu plus de poésie, quand même.
C'est voilà. Un bon guide de voyage, vos films, en fait, ouais. Hein, par rapport à Marseille.
Mais Marseille devrait me payer pour ça. Mais
il ne me donne rien. J'ai une question subsidiaire. Vous êtes très, très concerné par le politique et l'écologie.
Mais l'écologie, on ne peut pas.
Mais elle n'est pas évoquée dans vos films. Elle n'est pas évoquée dans vos films.
Alors d'abord, c'est faux.
Ah bon?
Parce que souvenez-vous, dans la villa, dans la villa, hein, où j'étais venu d'ailleurs vous rencontrer ici, dans la villa, il y avait des personnages qui, hein, tout seuls, débroussaillaient pour éviter les incendies, les chemins. C'était Gérard Mélan,
qui
faisait ça. Donc voilà de l'écologie concrète.
Gloria Mundi.
Je pense que l'écologie est profondément politique. Elle ferait mieux de s'en préoccuper d'ailleurs. Mais on ne va pas refaire de la politique.
Non. Alors, il y a toujours chez vous l'intime et le collectif, encore une fois dans Gloria Mundi, et on a retrouvé aussi pareil dans Les Neiges du Kilimandjaro.
Par exemple.
On rappelle un peu le début du film pour bien comprendre l'extrait.
Le tout début, les ouvriers doivent dire qui se saborde parmi eux. Voilà, concrètement.
Courage, c'est de surveiller exactement sa machine à filer ou à tisser pour qu'aucun fil ne se casse. Et de préparer cependant un ordre social plus vaste et plus fraternel, où la machine sera la servante commune des travailleurs libérés.
Michel Martereau, quel orgueil.
C'était pas triché de ne pas mettre ton nom. C'était pas triché en tant que représentant syndical, rien ne t'obligeait à être sur la liste.
Ça aurait été un privilège et je n'en veux pas.
Et tu vas dire quoi, Marie-Claire ?
Que mon nom a été tiré au sort avec 19 autres camarades.
Et que tu aurais pu ne pas y être dans l'urne, tu vas le lui dire ?
Merde.
Il va falloir que je trouve une autre copie, ça m'étonne.
Many rivers to cross, but I can't seem to find.
Robert Guillon, on pourrait dire que vous, c'est le marxisme plus Joe Cocker, l'individu plus le collectif.
Oui.
Ça serait une façon de vous résumer.
Oui, oui, je fou de variété, ça me met effectivement dans des états seconds, d'émotion, et effectivement, je pense que le socialisme aurait gagné à intégrer le twist.
Mais rien n'est perdu. Si, le socialisme, peut-être.
Non, c'est drôle, c'est le sujet de mon prochain film. Hein. Twist et socialisme.
Twist et socialisme.
Et Afrique.
Et en Afrique.
D'accord.
C'est important pour vous, Lola Neymarck et Grégoire Le Prince Ringuet, d'être dans un film qui porte un tel message, mais qui parle de notre monde.
Autant des réalités sociales.
Ouais.
Oui, ça l'a toujours été. Enfin, je veux dire, moi, ça change pas vraiment ma manière de faire mon travail, mais ça me fait participer à une culture, quoi. Quand je dis c'est une culture, c'est-à-dire, encore une fois, avec un passé, ce qu'on raconte sur le tournage quand on le fait, une projection, un présent, enfin, c'est culturel, les chansons qu'on chante pendant le film, la manière de travailler, cette organisation qui est pas hiérarchisée. Je veux dire, c'est pas uniquement des valeurs qui sont des projections, on les vit vraiment, quoi. Sur le plateau, on les vit dans le partage avec les techniciens, ça se passe pas exactement pareil que les autres plateaux quand même. Il y a une fraternité, une bienveillance générale, une manière de travailler qui est pas hiérarchisée. C'est quand même, d'une certaine manière, un idéal qui a aussi réussi, quoi, le cinéma de Guédiguian.
Ça veut dire que vous avez pas eu une énorme caravane, par exemple, la Neymarck?
Non, j'ai pas eu. D'ailleurs, je comprends pas. Elle est où ma caravane? Non, je pense que c'est sûr que pour faire des films de Robert, il faut quand même adhérer à un certain idéal commun. Et c'est pas possible de les faire autrement. Enfin, à l'image de Bernard, les techniciens aussi travaillent, c'est tous les mêmes. C'est vraiment une troupe. Et on se connaît, et on s'aime, et on se respecte, et on a envie de raconter les mêmes choses. Et par ailleurs, moi, j'envisage pas de faire du cinéma ou du théâtre, d'ailleurs, pour autre chose que pour parler du monde. Alors, il y a 10 000 façons de le faire. On peut le faire en montant Shakespeare, on peut le faire avec une comédie, et on peut le faire avec les films de Robert.
Bernard, ça, vous sentez ça aussi au montage, bien sûr.
Oui, si ce n'est que
Moi aussi, mon rôle, c'est, comme vous voyez, Robert aime bien faire des discours, aime bien parler politique. Et mon rôle aussi, vous n'avez pas remarqué. Donc, des fois, je suis triste d'être le monteur d'un cinéaste qui dit je ne suis pas cinéaste, enfin, pour reprendre une de ses expressions.
Ah ouais.
Et voilà, et les gens pensent que j'habite Marseille, que, voilà, alors que j'ai fait une école de cinéma, alors ah oui. que je fais du montage, voilà, je fais du montage. Donc voilà, mon travail, et c'était un peu aussi notre idée avec Robert Saint-Robert, c'est de montrer que, aussi Robert est un cinéaste, Robert aussi a créé une œuvre de cinéma.
Oui.
Alors bien évidemment, dans cette œuvre, il parle de politique, mais il parle aussi d'autre chose. Vous parliez de Marseille, il parle aussi de l'architecture de la ville, il parle d'une évolution. Voilà. Et d'autre part, il dirige des comédiens, mais il les dirige à sa manière, il dirige des techniciens. Donc voilà, donc c'était un peu aussi l'idée de dire que voilà, c'est une famille, mais aussi on est des professionnels. Et j'emploie ce terme un peu volontairement, quoi. C'est-à-dire qu'on est aussi des gens qui on fait partie d'une tribu, mais on n'est pas là à boire des pastis à longueur de journée.
C'est ce qui fait aussi la richesse de la tribu, c'est qu'on par ailleurs on travaille tous à côté,
oui,
et on revient travailler pour Robert, riche de toutes les autres expériences qui nous constituent.
Exactement. Je veux dire, quand Robert m'appelle, effectivement, je viens au montage riche des films que j'ai montés entre temps, et on croise nos regards, comme on dit dans Robert sans Robert. Voilà.
Vous parliez de ce bonheur de tournage, etc. Mais quand même, Robert Guédiguian, le cinéma est très hiérarchisé. Jamais un chef-op pourra dire ton son est mauvais, l'ingé son, etc. Vous voyez, c'est des postes. Comment vous faites pour casser cette hiérarchie?
Non, c'est pas. Je crois que tout simplement tout le monde travaille, mais le film avance sa propre performance. En fait, il y a une idée comme une espèce de hiérarchisation. Il y a le film d'abord, le projet. Donc tout le monde a une visée, quoi. C'est que le film soit réussi. Je pense que même évidemment, les acteurs pensent tous quand même à leur propre rôle, bien entendu, à leur propre texte, à leur propre dialogue. Mais ils pensent aussi aux autres, quoi. Ils pensent aussi au film. Ils pensent à la place de la séquence dans le film. Ils jouent ensemble.
Comme dans notre tournage.
Pas forcément. Pas forcément.
Vous dites le tournage d'un film, c'est un moment.
Par exemple, dire qu'un acteur joue pas avec les autres acteurs, c'est extrêmement fréquent. Il joue tout seul. Il joue pour lui. Vous savez que je produis beaucoup de films par ailleurs. Je vous garantis que beaucoup d'acteurs jouent pour eux tout seuls. Voilà. Et je pense que des acteurs, ils ne vont citer personne, mais ça leur est arrivé très souvent
de jouer avec quelqu'un. Vous souriez, vous rougissez, là, les
jouer avec quelqu'un en face qui n'est pas là, quoi.
Ah bah oui.
Qui s'en fout.
On a déjà joué avec des scotchs, parce que quelqu'un devait partir plus tôt, parce qu'il avait des courses à faire. Ça nous est déjà tous arrivé. Voilà. Et là, au-delà des acteurs, il y a vraiment ce souci constant. C'est pas vrai. Je pense que l'ingé son ne peut pas dire au chef-op que son image est mauvaise. Enfin, en tout cas, sur les plateaux de Robert, ça peut arriver. Il ne va pas lui dire ton image est à chier. Mais il va y avoir ce vrai souci commun de visée collective d'une œuvre de cinéma à produire.
Robert Guédiguian, vous dites d'ailleurs, le tournage d'un film, c'est un moment communiste. Carrément.
Oui, je pense. Dans le sens le plus intéressé dans cette hypothèse communiste. C'est-à-dire un moment où effectivement, un individu, en fait, se réalise dans un collectif qui avance. C'est-à-dire, il y avait dans une dialectique avec donc une visée collective et une réalisation individuelle, un ego satisfait dans une coopérative, voilà. Je pense que c'est tout à fait possible. On a d'autres exemples que cela, mais ce moment-là, je dis bien que c'est un moment, puisqu'après, évidemment, ce moment disparaît, et puis tout le monde se revit comme on vit dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui. Mais ce moment-là, c'est une chose d'ailleurs qui est particulièrement visible dans le film de Bernard, ça m'a surpris la première fois que je l'ai vu, son film, où effectivement, il raconte assez bien comment, à l'intérieur de tous les films qu'il a montés, il dit des choses, lui, mais qui appartiennent à lui. Et qui sont complètement fondus, amalgamés, je veux dire, dans des films qui ont existé, je veux dire, mais qui sont des choses personnelles. Voilà. Donc, je pense que c'est vrai pour les acteurs, je pense que c'est vrai pour les opérateurs, je pense que c'est vrai pour avec ce que disait tout à l'heure Lola et Grégoire aussi, avec cette idée quand même, et Bernard aussi, de dire, je crois que la méthode consiste à dire aux gens quand même, la laisser proposer les gens, c'est-à-dire à intervenir sur leurs propositions. Si on dit à quelqu'un ce qu'on veut, tout le monde est gentil, hein, ils vont faire ce qu'on leur a demandé de faire. Voilà. Si on leur dit rien, Ils vont faire quelque chose qui peut-être va être très surprenant et qui va amener, je veux dire, quelque chose. Ils vont apporter. Si on leur dit de faire quelque chose, ils n'apporteront rien. Ils essaieront au mieux, au plus juste, de faire ce qu'on leur a demandé. Voilà.
Patron et communiste, c'est l'idéal.
Exactement.
Patron notamment de la Cinémathèque de Toulouse, non, le président. C'est important aussi, en dehors de ces films, d'agir dans des structures aussi passionnantes que les cinémathèques, et notamment celle de Toulouse, qui est très riche.
Oui.
Très riche en documents.
Oui, c'est énorme, c'est 50 000 copies, c'est la plus grande collection d'affiches de France,
oui.
Certainement même d'Europe. Donc c'est une énorme cinémathèque. Et c'est vrai, non, ça pour moi, si vous voulez, c'est carrément, c'est militant, quoi, aussi de manière très forte, puisque vous savez que c'est, évidemment, c'est être bénévole, c'est moi qui paie mes voyages pour aller à Toulouse, hein, c'est-à-dire, on n'a pas des jetons de présence, c'est pas un conseil d'administration, voilà, hein. Je suis président, bénévole et je paie pour être président. Bon. Mais je dis c'est du militantisme parce que je crois qu'on a tous, on doit tous faire ça. J'étais président de la SRF pendant 5 ans. Voilà, j'étais président des distributeurs indépendants. Je suis président de la Cinémathèque. C'est-à-dire c'est comme il faut bien qu'on, c'est comme faire le service militaire dans le cinéma. Il faut bien que je rende service à la nation au cinéma. Voilà.
Je parlais
donc je fais mon devoir.
Pour Gloria Mundi, je parlais d'une tragédie. C'est très important ce ton-là parce que ça vous différencie par exemple d'un Ken Loach. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à son dernier film, notamment, qui reste dans le réalisme absolu. Vous prenez une distance par rapport à ça. Vous en parlez très fort.
Mais je pense qu'il y a, qu'avec Elon, j'en ai d'accord avec, politiquement d'ailleurs, à 90%, hein, parce que quand même, parfois, je suis pas d'accord avec lui. Le boycott, par exemple, du cinéma israélien, je suis pas d'accord avec lui. Donc il y a des choses, hein, avec lesquelles on peut atteindre des accords. Ça n'enlève aucune amitié. On est d'accord sur l'essentiel. Et par contre, en formellement, il y a une différence, je pense, essentielle. C'est vrai que Ken Loach ne fait pas de théâtre, mais ça, c'est pas le jugement de valeur non plus. J'ai une admiration sans borne pour Ken Loach. Ce qu'il fait est tout à fait remarquable. Mais, effectivement, dans les films de Ken Loach, je pourrais dire ça comme ça, je ne vois pas son intimité à lui. Dans aucun film. Je vois son point de vue. Ça, de manière très claire. C'est clair, c'est très très clair, son point de vue. Mais je ne vois pas de choses qui lui appartiennent en propre.
Un trotskiste pur et dur.
C'est troubles, c'est bonheur, c'est malheur, etc., tout ça. Bon. Dans mes films, je parle énormément de moi, hein, oui. Je dis évidemment de moi, de manière voilée toujours, puisque c'est toujours des fictions, tout ça, c'est jamais des autofictions. Mais en fait, je parle énormément de l'état dans lequel je suis. Donc j'ai toujours mixé, comme ça, des choses très, pour dire ce mot, autoristes, à des récits construit avec des narrations simples, etc. Tout ça, voilà. Le personnage de Gérard Mellat me ressemble étrangement dans ce film-là. Voilà, par exemple.
Il manque le soleil et la mer chez Ken Loach.
Oui, ça, c'est notre différence entre nous. Ouais. Ça, c'est vrai.
Merci, vous restez avec nous, bien sûr. Ça s'appelle Gloria Mundi.
Allez le voir.
Ça sort mercredi prochain. L'intégrale de Robert Guédiguian. Et dans cette intégrale en DVD, il y a ce documentaire de Bernard Sassia.
Et Clémentine Yannick.
Oui, ça vous y tenez.
Un beau cadeau.
Robert. On a cherché une musique à passer, on s'est dit qui on pourrait passer dans la playlist, qui Marseillais dans la playlist, bah bien sûr, ce sont eux, précédés d'un extrait d'un de nos films qu'on adore.
Tu viens, Nasser ?
Oh, curé !
Vous en êtes encore près, Madame Morel ?
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, curé ?
Et tu sais qui c'est, Madame Morel ? Tu sais ce qu'elle a fait pour toi et ta famille ?
Vous l'avez déjà dit la semaine dernière !
Sans elle, sans tout ce qu'elle a fait !
On aurait été expulsés de la cité, je sais. C'est la lutte finale.
Bon, je veux te voir cet après-midi à la planche à voile, avec tous les autres.
Oh, vous pouvez pas me lâcher un peu ? La semaine dernière, la piscine, la semaine d'avant, la planche de sous-marine. Mais je suis fatigué, curé.
Bon baiser de Mars. L'équipe de choc est de retour, crie-le. La CLSA ou Magacho, rarement KO. Message personnel à ceux qui visent le titre, le chemin, la ceinture. M6 Queen sur le ring. Trap 7, crash sec, mec. Live tout droit de Fort Greene à Brooklyn. On vient convertir les sceptiques, les éclairer, chauffer leur climat. Bloc parti, bloc parti, quand les platines sont de sortie. Tu t'es prêt pour découper. À tous les jeunes MC, mettez le plaisir d'abord.
Rap street, 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 dynamite, pure guerre de tranchées. Rap street, dynamite, pure guerre de tranchées. Rap street, dynamite, pure guerre de tranchées.
Yeah.
Je vandalise le rap simple comme ABC. Tu entends le son de loin dans nos tirs quand les vitres sont abaissées. J'ai ce fond dans mon système, il faut des rimes qui se tiennent. Et toutes celles et ceux qui sont pris viennent. Écoute, la musique ne se planifie pas, même ceux qui se voyaient beaux ne se qualifient pas. Alors tous les jours au laboratoire, je bosse mes gammes pour donner le maximum. Une fois devant l'oratoire, les caniches nains savent tous qu'on est des Rottweilers. 100% des mots sont à nous. C'est quoi ce rap avec des ghostwriters? J'en pousse seul, c'est l'effet domino. Là sur le sentier de la guerre, comme Géronimo. Smack les humilie, tous ce faux bling à Nick et Maritine. Comme Rakim, les alignés, les plis en ordre alphabétique. Je capterai jamais pourquoi quand les frangins touchent le gras, ils se comportent comme des pires bourgeois. Sale manière, sale goût, sale fréquentation. Leurs parents se sont saignés, dis-moi où est leur éducation. À mes yeux, ça reste trop vague. Alors c'est quoi que tu fais? Rap ou violence, pas beau, escroc blague. À l'opposé d'un tatakis cruel extérieur dedans, complètement cuit, ainsi fait le petit con, fout la merde, puis s'enfuit. Ça s'étonne un an après que la guerrière est sous les pissenlits. T'es encore sur le quai comme Benny Blanco. J'suis déjà loin devant mes ramènes en Montessando.
Nom de code, je ricaine avec un cas comme Kunta Kinte. J'viens d'un endroit où les frères sont rarement acquittés. Il paraît que mon hip-hop, don't stop, nous a quittés. Viens pas t'y frotter quand même, Gary, ça va piquer. Compliqué, ça va le devenir, ma team va rappliquer. Fini les balbutiements, on parle d'art appliqué. On me demande d'aller doucement, j'ai pas le temps d'expliquer. Trop de gars m'attendent pour faire un nom de leur sobriquet. Mon son un lance-flamme, qu'est-ce qu'ils foutent avec leur briquet? Ça se prend pour des kings, mais ça va très vite abdiquer. Des criquets, c'est ce qui restera quand je cesserai de kicker. Eux qui pensaient que pour rapper il suffisait de cliquer. Tu veux tester le crew, fais la queue, prends un ticket. Plein de rimes dans l'escarcelle, ce pari là est risqué. Mais puisque tu sembles insister, je vais pas résister. À la fin de l'envoi, ton petit boule va se faire plastiquer. On l'appelle Mike, sa fonction c'est d'éradiquer. On m'appelle Chou, j'ai la même fonction que Mike. C'est au cœur de la bataille que je fais taire les critiques. Les haters et les sceptiques, les gueux assis sur un piquet.
On va parler des films, Laurent, bien sûr. On va commencer par Terminal Sud de Rabah Meurzheimesh. Oui. Alors, dans un pays plongé dans un climat d'insécurité et de conflits armés, un médecin tente malgré tout d'accomplir son devoir au sein d'un centre hospitalier jusqu'au jour où son destin bascule. Un récit dystopique, comme on dit, mais dans un film où on se demande ce qu'il veut dire et où il veut en venir, non ?
Oui, c'est un petit peu ça le problème de ce film d'un cinéaste qu'on aime beaucoup. Moi, je me souviens notamment de Dernier Maquis, qui est un film extrêmement marquant, politiquement même. Voilà, c'est un très très beau film. Là, avec ce pays, on ne sait pas. Est-ce que c'est l'Algérie ? Possiblement l'Algérie, mais si c'est l'Algérie, alors il y a une sorte de colonialisme d'hier qui est sous-jacent et qui serait l'ancêtre de la répression d'État d'aujourd'hui, par exemple. On a du mal à voir ce que réellement veut dire le cinéaste, et c'est ça le problème, à travers la figure en plus un peu, non pas convenue bien sûr, mais de ce médecin qui se retrouve torturé. Voilà, il y a des choses, il y a des éléments comme ça auxquels on aimerait adhérer, on aimerait être au plus près de ce personnage touchant, évidemment. Et puis il y a des tas de filtres, des tas de choses qu'on ne comprend pas, des tas de choses qui n'apparaissent pas comme ni réalistes, ni oniriques, et on reste un peu en dehors du chemin, c'est dommage pour ce Terminal Sud.
Les Éblouistes, un premier film de l'actrice Sarah Souko. Camille, 12 ans, passionnée de cirque, elle est née d'une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s'investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l'embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et surtout sauver ses frères et sœurs. Sarah Souko, et s'est inspiré de sa propre vie, puisqu'elle et sa famille ont vécu dans une communauté charismatique pendant 10 ans. C'est dire si elle maîtrise son propos, tout effectivement paraît juste dans cette histoire, et les acteurs, tous les acteurs, Camille Cotin, Éric Caravaca, Jean-Pierre Darroussin, Céleste Brunkel, l'incarnent très subtilement, sans pathos. Alors que manque-t-il à ce film? Un scénario peut-être vraiment original et pas programmatique et attendu, et surtout dans une mise en scène plus ambitieuse, même dans sa sobriété, Laurent.
Oui, moi je pense que son principal défaut, c'est presque sa qualité première, c'est d'être un récit à la première personne, mais justement il fallait peut-être essayer de se détacher un peu de sa vitre, et du coup d'ailleurs les autres personnages n'existent guère réellement, y compris, bouchez-vous les oreilles, le clan Guédiguian, y compris Darroussin, et là j'ai du mal à le dire, mais c'est comme ça, il joue un prêtre, bon, qui s'appelle le berger d'ailleurs, et On l'accueille, ses oies, il l'accueille en bêlant, ce genre de choses. Bon, ça fait un peu rire, oui. Évidemment, bien sûr. Donc, on se dit, voilà, on aurait aimé.
Elle a tout entendu ses bêlements, hein.
Peut-être, c'est possible. Ouais. On aurait aimé qu'elle creuse un peu, en tous les cas, tout ça. Et puis, surtout, alors, on lui en voudra un peu plus, mais on ne dira rien sur la fin qui part sur un tout autre sujet beau, très, très actuel. Là, on se demande ce que ça vient un petit peu faire par là. Voilà.
Ça s'appelle.
Les éblouis de Sarah Succon.
Les enfants d'Isadora, 4e film de Damien Manivelle, mais premier sur la danse pour cet ancien danseur qui met en scène la reconstitution d'un solo créé par Isadora Duncan, la mère, après la mort tragique de ses deux enfants en 1913. Une mère y caresse et berce une dernière fois son enfant avant de le laisser partir. Un siècle plus tard, quatre femmes font la rencontre avec cette danse. Une jeune danseuse, Agathe Bonitzer, une chorégraphe, son élève trisomique et une vieille dame solitaire. L'esquisse d'un geste répété par les quatre interprètes, l'essence d'un mouvement dans cette chorégraphie du deuil, on peut dire contemplative, moi je dirais extrêmement lente, on a presque envie, je sais que c'est pas bien de dire ça, de mettre sur avance rapide.
Oui, bon, c'est dommage, cette semaine, c'est vraiment les regrets, on a l'impression d'émettre en permanence des regrets. Moi je pense au Parc de Damien Manivelle, qui était un petit bijou de moyen-métrage, extrêmement poétique, léger, et à la fois aérien et complexe à la fois. Là, il y a une sorte de lourdeur du sujet, vous le rappeliez, hein, les enfants morts, Diadora d'Incan, ça transforme tout le propos en thèse presque un petit peu lourde, oui. Et c'est vraiment dommage.
C'est
parce
plus
que
intellectuel que physique.
C'est plus intellectuel que physique, alors qu'il est question de danse.
Mais oui.
Et on en est réduit au fond à ce qu'est une chorégraphie écrite, ce qui est très intéressant de voir, ce qui est un truc qui est désincarné absolument. C'est même pire qu'une partition musicale, une partition de danse. Donc de ce point de vue-là, il en reste à ce stade-là, et c'est bien dommage. Ça s'appelle Les enfants d'Isadora.
Bon ben après c'est aussi une déception, c'est un film chinois de Johnny Ma, c'est Vivre et chanter, c'est une troupe d'opéra traditionnelle qui doit fermer ses portes.
Oui, il faut que les distributeurs fassent attention en France, il y a une vague chinoise qui est très intéressante quand ça s'appelle je le dis ça peut-être
une épidémie.
Pour quelqu'un.
Attention,
oui,
épidémie chinoise.
Oui parce que quand c'est Jia Zhongke ou Xiao Shang dont on va voir bientôt l'extraordinaire Fun Chun début janvier, tout va bien, et quand ils décrivent ces gens-là le hiatus entre la Chine d'aujourd'hui et la Chine de demain, c'est formidable. Ce film essaye de chanter dans ce champ-là, malheureusement c'est pas à ce niveau.
Puis je rappelle bien sûr qu'il y a Les Misérables de Lajli qui est en salle aussi depuis mercredi, dont on a largement parlé,
oui.
Mercredi dernier.
Et mercredi prochain, il y a Gloria Mundi de Robert Guillier.
Voilà. Et sinon, alors, il y a un cycle...
Qu'un film de Miloš Forman.
Oui, alors, ça vous dit quelque chose, Grégoire Le Prince Ringuet, les débuts de Miloš Forman, par exemple?
Je crois qu'il y a un film tchèque qui s'appelle...
Ils sont tous tchèques, hein, parce qu'il était tchèque.
À l'époque, il était tchèque. En noir et blanc.
En noir et blanc, avec une fille qui danse avec un manteau sur un air de jazz et qui s'appelle, rappelez-moi le titre.
C'est pas la...
Les Amours d'une Blonde. Les Amours d'une Blonde. Bravo, vous avez gagné. Au Feu les Pompiers, L'Audition et L'As de Pique, c'est les quatre films des années 60, avant le départ, évidemment, de Forman pour les
États-Unis. Au Feu les Pompiers, c'est un chef-d'œuvre.
C'est vrai.
Absolument. Nous sommes bien d'accord.
Et vous aimez bien ce qu'on appelle sa deuxième période, la période américaine de Forman?
Il y a des choses bien, oui, il y a des choses bien. Mais je préfère cette période-là, c'est sûr.
Oui, cette période-là.
Mais il y a des choses bien aussi. Il y a des choses bien aussi après.
Laurent, on a du temps pour une fois pour les cadeaux.
Alors, on va le prendre pour les donner tranquillement, ces cadeaux qui sont autant de recommandations évidemment à nos auditeurs. Tous ces cadeaux sont en vente dans les bacs ou sur les piles. Vous verrez, il y a d'abord pour Robert Guédiguian, le dernier milliardaire, film de 1934 de René Clair. C'est chez Pathé. Et c'est un film comique, mais en même temps, c'est un film annonciateur parce que c'est l'histoire d'un dictateur, d'un dictateur au petit pied en 1934. On voit ce que ça a pu donner un peu plus tard, mais évidemment, il n'y a pas de politique fiction ici. Mais c'est un film tout à fait réjouissant, comme René Clair savait en faire à l'époque.
Voilà. Vous connaissez,
merci.
Vous l'avez,
merci beaucoup.
Vous l'avez...
J'ai pas vu ce film.
Voilà. Donc je vous rappelle, c'est chez Pathé et il est évidemment disponible. Pour vous, Lola Neymar, qu'on a pensé vous offrir le livre sur une de vos consoeurs, hélas beaucoup trop tôt disparue, qui s'appelait Christine Pascal. Christine Pascal, mémoire croisée de deux sœurs, parce que c'est sa sœur Michèle Pascal qui fait ce très très beau livre, préfacé par Bertrand Tavernier, qui donne en plus à lire deux scénarios inédits. inédit de Christine Pascal. Elle est passée comme une sorte de météore dans le cinéma français. En plus, elle a réalisé des films et vraiment sa disparition prématurée nous a laissé un peu comme des orphelins, comme nous le dit un peu Tavernier. C'est aux éditions Leitmotiv, ce très beau livre, Christine Pascal, mémoire croisée de deux sœurs. On ne saurait trop vous le recommander.
Vous la connaissiez ou pas ?
Oui, je la connais. J'avais entendu parler du livre. Je suis très contente de le recevoir. Merci beaucoup.
Bernard Sassia, pour vous, le monteur que vous êtes, on va lui offrir de la pure comédie américaine avec Screwball Comedy. C'est un DVD aux éditions Montparnasse. Il y a trois films, dont un de Wellman et un autre de Howard Hawks. Vous savez, la Screwball Comedy, c'est l'âge d'or de la comédie américaine, celle qui donne la pêche, celle qu'on a envie de voir et de revoir. Ces trois films-là en font évidemment partie. On est heureux Merci. De vous offrir ce DVD. Et puis pour vous, Monsieur le Prince Ringuet, eh bien, ce petit chef-d'œuvre du cinéma américain, c'est un western que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La Chevauchée Fantastique de John Ford, avec le jeune John Wayne à l'époque. C'est chez Lobster. C'est évidemment un film mythique, indépassable. Je pense qu'on n'a jamais rien fait de mieux en termes de western. Donc on est heureux aussi de vous l'offrir et de le recommander chaudement à nos auditeurs.
Et voilà, c'est fini. Ça s'appelle Gloria Mundi. Ça sort mercredi prochain. Enfin, ça, c'est un film qui sort mercredi prochain, réalisé par Robert Guédiguian avec Lola Neymarck, avec Grégoire Le Prince Ringuet. Merci aussi à votre monteur d'être venu, Bernard Sassia, merci.
Avec Anaïs de Moustier, Ariane Ascaride aussi dans le casting.
Et Robinson Stévenin, et Gérard Mélan.
Et Jean-Pierre Darroussin.
Voilà. Ça fait du monde.
Et Marseille.
Oui. Et on vous laisse le générique. Merci. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Grantes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurane Thomas et Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Bernard Sassia, j'y étais.
Et moi, Robert Guédiguian. J'y étais.
Et lui, Grégoire Le Prince Ringuet, il y était.
Et elle, Lola Neymarck, elle y était.